Tartarin, deuxième épisode. Chez les teurs. Je voudrais, mes chers lecteurs, être peintre et grand peintre pour mettre sous vos yeux, en tête de ce second épisode, les différentes positions que prit la chéchia de Tartarin de Tarascon dans ses 3 jours de traversée qu'elle fit à bord du Zouave, entre la France et l'Algérie. Je vous la montrerai d'abord au départ sur le pont, héroïque et superbe comme elle était, auréolant cette belle tête tarasconnaise. Je vous la montrerai ensuite à la sortie du port, quand le zouave commence à caracoler sur les lames. Je vous la montrerai frémissante, étonnée, et comme sentant déjà les premières atteintes de son mal. Puis, dans le golfe du Lion, à mesure qu'on avance au large et que la mer devient plus dure, je vous la ferai voir aux prises avec la tempête, se dressant effarée sur le crâne du héros et son grand flot de laine bleue qui se hérisse dans la brume de mer et la bourrasque. Quatrième position, 6 heures du soir, en vue des côtes corses. L'infortuné chéchia se penche par-dessus le bastingage et lamentablement regarde les sons de la mer. Enfin, cinquième et dernière position, au fond d'une étroite cabine, dans un petit lit qui a l'air d'un tiroir de commode, quelque chose d'informe et de désolé roule en geignant sur l'oreiller. C'est la chéchia, l'héroïque chéchia du départ, réduite maintenant au vulgaire état de casque à mèche et s'enfonçant jusqu'aux oreilles d'une tête de malade, blême et convulsionnée. Ah, si les Tarasconnais avaient pu voir leur grand Tartarin couché dans son tiroir de commode sous le jour blafard et triste qui tombait des hublots, parmi cette odeur fade de cuisine et de bois mouillé, l'écœurante odeur du paquebot. S'il l'avait entendu râler à chaque battement de l'hélice, demander du thé toutes les 5 minutes et jurer contre le garçon avec une petite voix d'enfant, comme il s'en serait voulu de l'avoir obligé à partir. Ma parole d'historien, le pauvre teur faisait pitié. Surpris tout à coup par le mal, l'infortuné n'avait pas eu le courage de desserrer sa ceinture algérienne ni de se défubler de son arsenal. Le couteau de chasse à gros manches lui cassait la poitrine, le cuir de son revolver lui meurtrissait les jambes. Pour l'achever, les bougonnements de Tartarin Sancho, qui ne cessait de geindre et de pester. « Imbécile, va, je te l'avais bien dit. Ah, tu as voulu aller en Afrique. Eh bien, t'es, la voilà l'Afrique. Comment la trouves-tu ? » Ce qu'il y avait de plus cruel, c'est que du fond de sa cabine et de ses gémissements, le malheureux entendait les passagers du grand salon rire, chanter, manger, jouer aux cartes. La société était aussi joyeuse que nombreuse à bord du Zouave. Des officiers qui rejoignaient leur corps, des dames de l'Alcazar de Marseille, des cabotins, un riche musulman qui revenait de la Mecque, un prince monténégrin très farceur qui faisait des imitations de Ravel et de Gilles Pérès. Pas un de ces gens-là n'avait le mal de mer, et leur temps se passait à boire du champagne avec le capitaine du Zouave, un bon gros vivant de Marseillais, qui avait ménage à Alger et à Marseille et répondait au joyeux nom de Barbassou. Tartarin de Tarascon en voulait à tous ces misérables. Leur gaieté redoublait son mal. Enfin, dans l'après-midi du 3e jour, il se fit à bord du navire un mouvement extraordinaire qui tira notre héros de sa longue torpeur. La cloche de l'avant sonnait. On entendait les grosses bottes des matelots courir sur le pont. « Machine en avant !» « Machine en arrière !» criait la voix enrouée du capitaine Barbassou. Puis « Machine, stop !» Un grand arrêt, une secousse et plus rien. Rien que le paquebot se balançant silencieusement de droite à gauche comme un ballon dans l'air. Cet étrange silence épouvanta le Tarasconnais. « Miséricorde, nous sombrons » cria-t-il d'une voix terrible. Et, retrouvant ses forces par magie, il bondit de sa couchette et se précipita sur le pont avec son arsenal. On ne sombrait pas, on arrivait. Le Zouave venait d'entrer dans la rade, une belle rade, aux eaux noires et profondes, mais silencieuse, morne, presque déserte. En face, sur une colline, Alger-la-Blanche, avec ses petites maisons d'un blanc mat qui descendent vers la mer, serrées les unes contre les autres. Un étalage de blanchisseuses sur le coteau de Meudon. Par là-dessus, un grand ciel de satin bleu, oh, mais si bleu! L'illustre Tartarin, un peu remis de sa frayeur, regardait le paysage en écoutant avec respect le prince monténégrin qui, debout à ses côtés, lui nommait les différents quartiers de la ville, la Casbah, la ville haute, la rue Babazout. Très bien élevé, ce prince monténégrin. De plus, connaissant à fond l'Algérie et parlant l'arabe couramment. Aussi Tartarin se proposait-il de cultiver sa connaissance. Tout à coup, le long du bastingage contre lequel ils étaient appuyés, le Tarasconnais aperçoit une rangée de grosses mains noires qui se cramponnaient par dehors. Presque aussitôt, une tête de nègre toute crépue apparaît devant lui. Et avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, le pont se trouve envahi de tous côtés par une centaine de forbans noirs, jaunes, à moitié nus, hideux, terribles. Ces forbans-là, Tartarin les connaissait. C'étaient eux, c'est-à-dire ils, ces fameux ils qu'il avait si souvent cherchés la nuit dans les rues de Tarascon. Enfin, il se décidait donc à venir. D'abord, la surprise le cloua sur place. Mais quand il vit les forbans se précipiter sur les bagages, arracher la bâche qui les recouvrait, commencer enfin le pillage du navire, alors le héros se réveilla et, dégainant son couteau de chasse, « Aux armes! Aux armes ! » cria-t-il aux voyageurs. Et le premier de tous, il fondit sur les pirates. « Kézako, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez ?» fit le capitaine Barbassou qui sortait de l'entrepont. « Ah, vous voilà, capitaine! Vite, vite, armez vos hommes !»
Eh, pourquoi faire, Bundio?
Mais vous ne voyez donc pas?
Quoi donc?
Là, devant vous, les pirates! Le capitaine Barbassou le regardait tout ahuri. À ce moment, un grand diable de nègre passait devant eux, en courant, avec la pharmacie du héros sur son dos. Misérable! Attends-moi! Hurla le Tarasconnais. Et il s'élança la dague en avant. Barbassou le rattrapa au vol et le retenant par sa ceinture. « Mais restez donc tranquille, Troundelaire. Ce ne sont pas des pirates. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de pirates. Ce sont des portefaix. »«
Des portefaix ? » ?»«
Eh oui, des portefaix, qui viennent chercher les bagages pour les porter à terre. »«
Rengainez donc votre coutelas. Donnez-moi votre billet et marchez derrière ce nègre. Un brave garçon qui va vous conduire à terre, et même jusqu'à l'hôtel si vous le désirez. »
Un peu confus, Tartarin donna son billet, et, se mettant à la suite du nègre, descendit par le tire-vieille dans une grosse barque qui dansait le long du navire. Tous ses bagages y étaient déjà, ses malles, caisses d'armes, conserves alimentaires. Comme il tenait toute la barque, on n'eut pas besoin d'attendre d'autres voyageurs. Le nègre grimpa sur les malles et s'y accroupit comme un singe, les genoux dans ses mains. Un autre nègre prit les rames. Tous deux regardaient Tartarin en riant et montrant leurs dents blanches. Debout à l'arrière, avec cette terrible moue qui faisait la terreur de ses compatriotes, le grand Tarasconnais tourmentait fiévreusement le manche de son coutelas. Car, malgré ce qu'avait pu lui dire Barbassou, il n'était qu'à moitié rassuré sur les intentions de ces portefaix à peau d'ébène, qui ressemblaient si peu aux braves portefaix de Tarascon. 5 minutes après, la barque arrivait à terre, et Tartarin posait le pied sur ce petit quai barbaresque où, 300 ans auparavant, un galérien espagnol nommé Michel Cervantes préparait, sous le bâton de la chourme algérienne, un sublime roman qui devait s'appeler Don Quichotte. Oh, Michel Cervantes Saavedra, si ce qu'on dit est vrai, qu'au lieu où les grands hommes ont habité, quelque chose d'eux-mêmes erre et flotte dans l'air jusqu'à la fin des âges, ce qui restait de toi sur la plage barbaresque dut tressaillir de joie en voyant débarquer Tartarin de Tarascon, ce type merveilleux du français du Midi, en qui s'étaient incarnés les deux héros de ton livre, Don Quichotte et Sancho Panza. L'air était chaud ce jour-là. Sur le quai ruisselant de soleil, 5 ou 6 douaniers, des Algériens attendant des nouvelles de France, quelques Maures accroupis qui fumaient leurs longues pipes, des matelots maltais ramenant de grands filets où des milliers de sardines luisaient entre les mailles comme de petites pièces d'argent. Mais à peine Tartarin eut-il mis pied à terre, le quai s'anima, changea d'aspect. Une bande de sauvages, encore plus hideux que les forbans du bateau, se dressa d'entre les cailloux de la berge
et se rua sur le débarquant. Grands arabes, tout nus sous des couvertures de laine. Petits morts en guenilles, nègres, tunisiens, mahonais, mozabites, garçons d'hôtel en tablier blanc, tous criant, hurlant, s'accrochant à ses habits, se disputant ses bagages, l'un emportant ses conserves, l'autre sa pharmacie, et dans un charabia fantastique, lui jetant à la tête des noms d'hôtels invraisemblables. Étourdi de tout ce tumulte, le pauvre Tartarin allait, venait, pestait, jurait, se démenait, courait après ses bagages, et, ne sachant comment se faire comprendre de ces barbares, les haranguait en français, en provençal, et même en latin, du latin de Pourceaugnac, Rosa la Rose, Bonus, Bona, Bonhomme, tout ce qu'il savait. Peine perdue, on ne l'écoutait pas. Heureusement qu'un petit homme, vêtu d'une tunique à collet jaune et armé d'une longue canne de compagnon, intervint comme un dieu de Homère dans la mêlée et dispersa toute cette racaille à coups de bâton. C'était un sergent de ville algérien. Très poliment, il engagea Tartarin à descendre à l'hôtel de l'Europe et le confia à des garçons de l'endroit qui l'emmenèrent, lui et ses bagages, en plusieurs brouettes. Au premier pas qu'il fit dans Alger, Tartarin de Tarascon ouvrit de grands yeux. D'avance, il s'était figuré une ville orientale, féerique, mythologique, quelque chose tenant le milieu entre Constantinople et Zanzibar. Il tombait en plein Tarascon. Des cafés, des restaurants, de larges rues, des maisons à quatre étages, une petite place macadamisée où des musiciens de la ligne jouaient des polkas d'Offenbach, des messieurs sur des chaises buvant de la bière avec des échaudés, des dames, quelques lorettes, et puis des militaires. Et pas un tort. Il n'y avait que lui. Aussi, pour traverser la place, se trouva-t-il un peu gêné. Tout le monde le regardait. Les musiciens de la ligne s'arrêtèrent, et la polka d'Offenbach resta un pied en l'air. Les deux fusils sur l'épaule, le revolver sur la hanche, farouche et majestueux comme Robinson Crusoe, Tartarin passa gravement au milieu de tous les groupes. Mais en arrivant à l'hôtel, ses forces l'abandonnèrent. Le départ de Tarascon, le port de Marseille, la traversée, le prince monténégrin, les pirates, tout se brouillait et roulait dans sa tête. Il fallut le monter à sa chambre, le désarmer, le déshabiller. Déjà même, on parlait d'envoyer chercher un médecin. Mais à peine sur l'oreiller, le héros se mit à ronfler si haut et de si bon cœur que l'hôtelier jugea les secours de la science inutiles, et tout le monde se retira discrètement. 3 heures sonnaient à l'horloge du gouvernement quand Tartarin se réveilla. Il avait dormi toute la soirée, toute la nuit, toute la matinée, et même un bon morceau de l'après-midi. Il faut dire aussi que, depuis 3 jours, la chéchée en avait vu de rudes. La première pensée du héros, en ouvrant les yeux, fut celle-ci. « Je suis dans le pays du lion. » Pourquoi ne pas le dire? À cette idée que les lions étaient là, tout près, à 2 pas, presque sous la main, et qu'il allait falloir en découdre, brrr, un froid mortel le saisit, et il se fourra intrépidement sous sa couverture. Mais au bout d'un moment, la gaieté du dehors, le ciel si bleu, le grand soleil qui ruisselait dans la chambre, un bon petit déjeuner qu'il se fit servir au lit, sa fenêtre grande ouverte sur la mer, le tout arrosé d'un excellent flacon de vin de Crescia, lui rendirent bien vite son ancien héroïsme. « Au lion, au lion » cria-t-il en rejetant sa couverture, et il s'habilla prestement. Voici quel était son plan. Sortir de la ville sans rien dire à personne, se jeter en plein désert, attendre la nuit, s'embusquer, et au premier lion qui passerait, pan, pan. Puis revenir le lendemain déjeuner à l'hôtel de l'Europe, recevoir les félicitations des Algériens et fréter une charrette pour aller chercher l'animal. Il s'arma donc à la hâte, roula sur son dos la tente abri, dont le gros manche montait d'un bon pied au-dessus de sa tête, et, raide comme un pieu, descendit dans la rue. Là, ne voulant demander sa route à personne de peur de donner l'éveil sur ses projets, il tourna carrément à droite, enfila jusqu'au bout les arcades Bab Azoun, où, du fond de leur noire boutique, des nuées de juifs algériens le regardaient passer, embusqués dans un coin comme des araignées. Traversa la place du théâtre, prit le faubourg et enfin la grande route poudreuse de Mustapha. Il y avait sur cette route un encombrement fantastique. Omnibus, fiacres, coricolos, des fourgons du train, de grandes charrettes de foin traînées par des bœufs, des escadrons de chasseurs d'Afrique, des troupeaux de petits ânes microscopiques, des négresses qui vendaient des galettes, des voitures d'Alsaciens émigrants, des spahis en manteau rouge, tout cela défilant dans un tourbillon de poussière, au milieu des cris, des chants, des trompettes, entre deux haies de méchantes baraques, où l'on voyait de grandes mahonnaises se peignant devant leurs portes, des cabarets pleins de soldats, des boutiques de bouchers, des carisseurs. « Qu'est-ce qu'ils me chantent donc avec leur Orient ?» pensait le grand Tartarin. « Il n'y a pas même tant de tort qu'à Marseille. » Tout à coup, il vit passer près de lui, allongeant ses grandes jambes et rengorgé comme un dindon, un superbe chameau. Cela lui fit battre le cœur. Des chameaux, déjà, les lions ne devaient pas être loin. Et, en effet, au bout de 5 minutes, il vit arriver vers lui, le fusil sur l'épaule, toute une troupe de chasseurs de lions. « Les lâches !» se dit notre héros en passant à côté d'eux. « Les lâches ! Aller aux lions par bande, et avec des chiens !» Car il ne se serait jamais imaginé qu'en Algérie on pût chasser autre chose que des lions. Pourtant, ces chasseurs avaient de si bonnes figures de commerçants retirés, et puis cette façon de chasser le lion avec des chiens et des carnassières était si patriarcale que le Tarasconnais, un peu intrigué, crut devoir aborder un de ces messieurs. « Et autrement, camarade, bonne chasse ?»« Pas mauvaise, » répondit l'autre en regardant d'un œil effaré l'armement considérable du guerrier de Tarascon. « Vous avez tué ? Mais oui, pas mal, voyez plutôt. » Et le chasseur algérien montrait sa carnassière toute gonflée de lapins et de bécasses. « Comment ça, votre carnassière ? Vous les mettez dans votre carnassière ? Où voulez-vous donc que je les mette ? Mais alors c'est des tout-petits. Des petits et puis des gros, fit le chasseur. » Et comme il était pressé de rentrer chez lui, il rejoignit ses camarades à grandes enjambées. L'intrépide Tartarin en resta planté de stupeur au milieu de la route. Puis, après un moment de réflexion, « Bah, se dit-il, ce sont des blagueurs, ils n'ont rien tué du tout. » Et il continua son chemin. Déjà, les maisons se faisaient plus rares, les passants aussi. La nuit tombait, les objets devenaient confus. Tartarin de Tarascon marcha encore une demi-heure. À la fin, il s'arrêta. C'était tout à fait nuit. Nuit sans lune, criblée d'étoiles. Personne sur la route. Malgré tout, le héros pensa que les lions n'étaient pas des diligences et ne devaient pas volontiers suivre le grand chemin. Il se jeta à travers champs. À chaque pas, des fossés, des ronces, des broussailles. N'importe, il marchait toujours. Puis, tout à coup, halte. « Il y a du lion dans l'air, par ici, » se dit notre homme. Et il renifla fortement de droite et de gauche. C'était un grand désert sauvage, tout hérissé de plantes bizarres, de ces plantes d'Orient qui ont l'air de bêtes méchantes. Sous le jour discret des étoiles, leur ombre agrandie s'étirait par terre en tous sens. À droite, la masse confuse et lourde d'une montagne. L'Atlas, peut-être. À gauche, la mer invisible qui roulait sourdement. Un vrai gîte à tenter les fauves. Un fusil devant lui, un autre dans les mains, Tartarin de Tarascon mit un genou à terre et attendit. Il attendit 1 heure, 2 heures, rien. Alors il se souvint que, dans ses livres, les grands tueurs de lions n'allaient jamais à la chasse sans emmener un petit chevreau qu'ils attachaient à quelques pas devant eux et qu'ils faisaient crier en lui tirant la patte avec une ficelle. N'ayant pas de chevreau, le Tarasconnais eut l'idée d'essayer des imitations et se mit à bêler d'une voix chevrotante. « Mais... » D'abord, très doucement, parce qu'au fond de l'âme, il avait tout de même un peu peur que le lion l'entendît. Puis, voyant que rien ne venait, il bêla plus fort. « Mais... » Rien encore. Impatienté, il reprit de plus belle et plusieurs fois de suite « Mais... » avec tant de puissance que ce chevreau finissait par avoir l'air d'un bœuf. Tout à coup, à quelques pas devant lui, quelque chose de noir et de gigantesque s'abattit. Il se tut. Cela se baissait, flairait la terre, bondissait, se roulait, partait au galop, puis revenait et s'arrêtait net. C'était le lion, à n'en pas douter. Maintenant, on voyait très bien ses quatre pattes courtes, sa formidable encolure, et deux yeux, deux grands yeux, qui luisaient dans l'ombre. Anjou, feu, pan, pan. C'était fait. Puis tout de suite, un bondissement en arrière, et le coutelas de chasse au poing. Au coup de feu du Tarasconnais, un hurlement terrible répondit. « Il en a !» cria le bon Tartarin, et, ramassé sur ses fortes jambes, il se préparait à recevoir la bête. Mais elle en avait plus que son compte et s'enfuit au triple galop en hurlant. Lui pourtant ne bougea pas. Il attendait la femelle, toujours comme dans ses livres. Par malheur, la femelle ne vint pas. Au bout de 2 ou 3 heures d'attente, le Tarasconnais se lassa. La terre était humide, la nuit devenait fraîche, la bise de mer piquait. « Si je faisais un somme en attendant le jour, » se dit-il. Et pour éviter les rhumatismes, il eut recours à la tente-abri. Mais voilà le diable! Cette tente-abri était d'un système si ingénieux, qu'il ne put jamais venir à bout de l'ouvrir. Il eut beau s'escrimer et suer pendant une heure, la damnée tente ne s'ouvrit pas. Il y a des parapluies qui, par des pluies torrentielles, s'amusent à vous jouer de ces tours-là. De guerre lasse, le Tarasconnais jeta l'ustensile par terre et se coucha dessus, en jurant comme un vrai Provençal qu'il était. Ta-ta, ratatatatata, ratata, qu'est-ce fit Tartarin, s'éveillant en sursaut. C'était les clairons des chasseurs d'Afrique qui sonnaient la diane dans les casernes de Mustapha. Le tueur de lions, stupéfait, se frotta les yeux. Lui qui se croyait en plein désert, savez-vous où il était? Dans un carré d'artichaut, entre un plant de chou-fleur et un plant de betterave. Son Sahara avait des légumes. Tout près de lui, sur la jolie côte verte de Mustapha supérieur, des villas algériennes, toutes blanches, luisaient dans la rosée du jour levant. On se serait cru aux environs de Marseille, au milieu des bastides et des bastidons. La physionomie bourgeoise et potagère de ce paysage endormi étonna beaucoup le pauvre homme, et le mit de fort méchante humeur. « Ces gens-là sont fous, se disait-il, de planter leurs artichauts dans le voisinage du lion. Car enfin, je n'ai pas rêvé. Les lions viennent jusqu'ici. En voilà la preuve. » La preuve, c'était des taches de sang que la bête en fuyant avait laissées derrière elle. Penché sur cette piste sanglante, l'œil aux aguets, le revolver au poing, le vaillant Tarasconnais arriva, d'artichaut en artichaut, jusqu'à un petit champ d'avoine. De l'herbe foulée, une mare de sang, et au milieu de la mare, couché sur le flanc, avec une large plaie à la tête, un... devinez quoi? Un lion, parbleu! Non, un âne, un de ces tout petits ânes qui sont si communs en Algérie, et qu'on désigne là-bas sous le nom de bourricot. Le premier mouvement de Tartarin à l'aspect de sa malheureuse victime fut un mouvement de dépit. Il y a si loin, en effet, d'un lion à un bourricot. Son second mouvement fut tout à la pitié. Le pauvre bourricot était si joli. Il avait l'air si bon. La peau de ses flancs, encore chaude, allait et venait comme une vague. Tartarin s'agenouilla et, du bout de sa ceinture algérienne, essaya d'étancher le sang de la malheureuse bête. Et ce grand homme, soignant ce petit âne, c'était tout ce que vous pouvez imaginer de plus touchant. Au contact soyeux de la ceinture, le bourricot, qui avait encore pour 2 liards de vie, ouvrit son grand œil gris, remua 2 ou 3 fois ses longues oreilles, comme pour dire « merci, merci », puis une dernière convulsion l'agita de tête en queue, et il ne bougea plus. « Noirot, Noirot !» cria tout à coup une voix étranglée par l'angoisse. En même temps, dans un taillis voisin, les branches remuèrent. Tartarin n'eut que le temps de se relever et de se mettre en garde. C'était la femelle. Elle arriva, terrible et rougissante, sous les traits d'une vieille Alsacienne en marmotte, armée d'un grand parapluie rouge et réclamant son âne à tous les échos de Mustapha. Certes, il aurait mieux valu pour Tartarin avoir affaire à une lionne en furie qu'à cette méchante vieille. Vainement, le malheureux essaya de lui faire entendre comment la chose s'était passée, qu'il avait pris Noirot pour un lion. La vieille crut qu'on voulait se moquer d'elle.
et, poussant d'énergiques tartaifles, tomba sur le héros à coups de parapluie. Tartarin, un peu confus, se défendait de son mieux, parait les coups avec sa carabine, suait, soufflait, bondissait, criait « Mais madame, mais madame !»« Va te promener !» Madame était sourde, et sa vigueur le prouvait bien. Heureusement, un troisième personnage arriva sur le champ de bataille. C'était le mari de l'Alsacienne, Alsacien lui-même et cabaretier. De plus, fort bon comptable. Quand il vit à qui il avait affaire et que l'assassin ne demandait qu'à payer le prix de la victime, il désarma son épouse et l'on s'entendit. Tartarin donna 200 francs. L'âne en valait bien 10. C'est le prix courant des bourricots sur les marchés arabes. Puis on enterra le pauvre noireau au pied d'un figuier et l'Alsacien, mis en bonne humeur par la couleur des douros tarasconnais, invita le héros à venir rompre une croûte à son cabaret qui se trouvait à quelques pas de là, sur le bord de la grande route. Les chasseurs algériens venaient y déjeuner tous les dimanches, car la plaine était giboyeuse et à 2 lieues autour de la ville, il n'y avait pas de meilleur endroit pour les lapins. « Et les lions ?» demanda Tartarin. L'Alsacien le regarda, très étonné. « Les lions ?»« Oui, les lions. En voyez-vous quelquefois ?» reprit le pauvre homme avec un peu moins d'assurance. Le cabaretier éclata de rire. « Ah ben merci, des lions, pourquoi faire ? Il n'y en a donc pas en Algérie ? Ma foi, je n'en ai jamais vu. Et pourtant, voilà 20 ans que j'habite la province. Cependant, je crois bien avoir entendu dire. Il me semble que les journaux... Mais c'est beaucoup plus loin, là-bas, dans le sud. » À ce moment, ils arrivaient au cabaret. Un cabaret de banlieue, comme on en voit à Vanvoix Pantin, avec un rameau tout fané au-dessus de la porte, des queues de billard peintes sur les murs et cette enseigne inoffensive. Au rendez-vous des lapins. Le rendez-vous des lapins. Oh, bravida, quel souvenir! Cette dernière aventure aurait eu de quoi décourager bien des gens. Mais les hommes trempés comme Tartarin ne se laissent pas facilement abattre. Les lions sont dans le sud, pensa le héros, eh bien j'irai dans le sud. Et dès qu'il eut avalé son dernier morceau, il se leva, remercia son hôte, embrassa la vieille sans rancune, versa une dernière larme sur l'infortuné noireau et retourna bien vite à Alger avec la ferme intention de boucler ses malles et de partir le jour même pour le sud. Malheureusement, la grande route de Mustapha semblait s'être allongée depuis la veille. Il faisait un soleil, une poussière, la tente abri était d'un lourd. Tartarin ne se sentit pas le courage d'aller à pied jusqu'à la ville et le premier omnibus qui passa, il fit signe et monta dedans. Ah, pauvre Tartarin de Tarascon! Combien il aurait mieux fait, pour son nom, pour sa gloire, de ne pas entrer dans cette fatale guimbarde et de continuer pédestrement sa route, au risque de tomber asphyxié sous le poids de l'atmosphère, de la tente abri et de ses lourds fusils rayés à double canon. Tartarin étant monté, l'omnibus fut complet. Il y avait au fond, le nez dans son bréviaire, un vicaire d'Alger à grande barbe noire. En face, un jeune marchand mort qui fumait de grosses cigarettes. Puis un matelot maltais et 4 ou 5 mauresques masqués de linge blanc et dont on ne pouvait voir que les yeux. Ces dames venaient de faire leur dévotion au cimetière d'Abdelkader. Mais cette vision funèbre ne semblait pas les avoir attristées. On les entendait rire et jacasser entre elles sous leurs masques en croquant des pâtisseries. Tartarin crut s'apercevoir qu'elle le regardait beaucoup. Une surtout, celle qui était assise en face de lui, avait planté son regard dans le sien et ne le retira pas de toute la route. Quoique la dame fût voilée, la vivacité de ce grand œil noir allongé par le col, un poignet délicieux et fin chargé de bracelets d'or qu'on entrevoyait de temps en temps entre les voiles, tout, le son de la voix, les mouvements gracieux, presque enfantins de la tête, disait qu'il y avait là-dessous quelque chose de jeune, de joli, d'adorable. Le malheureux Tartarin ne savait où se fourrer. La caresse muette de ses beaux yeux d'Orient le troublait, l'agitait, le faisait mourir. Il avait chaud, il avait froid. Pour l'achever, la pantoufle de la dame s'en mêla. Sur ses grosses bottes de chasse, il la sentait courir, cette mignonne pantoufle, courir et frétiller comme une petite souris rouge. Que faire ?
répondre à ce regard, à cette pression. Oui, mais les conséquences. Une intrigue d'amour en Orient, c'est quelque chose de terrible. Et avec son imagination romanesque et méridionale, le brave Tarasconnais se voyait déjà tombant aux mains des eunuques, décapité, mieux que cela peut-être, cousu dans un sac de cuir et roulant sur la mer sa tête à côté de lui. Cela le refroidissait un peu. En attendant, la petite pantoufle continuait son manège et les yeux d'en face s'ouvraient tout grands vers lui, comme deux fleurs de velours noir, en ayant l'air de dire « Cueille-nous ». L'omnibus s'arrêta. On était sur la place du théâtre, à l'entrée de la rue Bab Azoum. Une à une, empêtrées dans leurs grands pantalons et serrant leurs voiles contre elles avec une grâce sauvage, les mauresques descendirent. La voisine de Tartarin se leva la dernière, et en se levant, son visage passa si près de celui du héros qu'il l'effleura de son haleine, un vrai bouquet de jeunesse, de jasmin, de musc et de pâtisserie. Le Tarasconnais n'y résiste pas. Ivre d'amour et prêt à tout, il s'élança derrière la mauresque. Au bruit de ses buffleteries, elle se retourna, mit un doigt sur son masque comme pour dire « Chut !» et vivement, de l'autre main, elle lui jeta un petit chapelet parfumé fait avec des fleurs de jasmin. Tartarin de Tarascon se baissa pour le ramasser, mais comme notre héros était un peu lourd et très chargé d'armure, l'opération fut assez longue. Quand il se releva, le chapelet de jasmin sur son cœur, la mauresque avait disparu. Lions de l'Atlas, dormez! Dormez tranquille au fond de vos retraites, dans les aloès et les cactus sauvages. De quelques jours encore, Tartarin de Tarascon ne vous massacrera point. Pour le moment, tout son attirail de guerre, caisses d'armes, pharmacies, tentes-abris, conserves alimentaires, repose paisiblement emballé à l'hôtel d'Europe, dans un coin de la chambre 36. Dormez sans peur, grand lion roux. Le Tarasconnais cherche sa mauresque. Depuis l'histoire de l'omnibus, le malheureux croit sentir perpétuellement sur son pied, sur son vaste pied de trappeur, les frétillements de la petite souris rouge. Et la brise de mer, en effleurant ses lèvres, se parfume toujours, quoi qu'il fasse, d'une amoureuse odeur de pâtisserie et d'anis. Il lui faut sa maugrabine. Mais ce n'est pas une mince affaire. Retrouver dans une ville de 100 000 âmes une personne dont on ne connaît que l'haleine, les pantoufles et la couleur des yeux, il n'y a qu'un Tarasconnais féru d'amour capable de tenter pareille aventure. Le terrible, c'est que, sous leur grand masque blanc, toutes les mauresques se ressemblent. Puis ces dames ne sortent guère, et quand on veut en voir, il faut monter dans la ville haute, la ville arabe, la ville des teurs. Un vrai coupe-gorge, cette ville haute. De petites ruelles noires très étroites, grimpant à pic entre deux rangées de maisons mystérieuses dont les toitures se rejoignent et font une aile. Des portes basses, des fenêtres toutes petites, muettes, tristes, grillagées. Et puis, de droite et de gauche, un tas d'échoppes très sombres où les teurs farouches à tête de forban, yeux blancs et dents brillantes, fument de longues pipes et se parlent à voix basse comme pour concerter de mauvais coups. Dire que notre Tartarin traversait sans émotion cette cité formidable, ce serait mentir. Il était au contraire très ému, et dans ces ruelles obscures, dont son gros ventre tenait toute la largeur, le brave homme n'avançait qu'avec la plus grande précaution, l'œil aux aguets, le doigt sur la détente d'un revolver. Tout à fait comme à Tarascon en allant au cercle. À chaque instant, il s'attendait à recevoir sur le dos toute une dégringolade d'eunuques et de janissaires. Mais le désir de revoir sa dame lui donnait une audace et une force de géant. 8 jours durant, l'intrépide Tartarin ne quitta pas la ville haute. Tantôt, on le voyait faire le pied de grue devant les bains morts, attendant l'heure où ses dames sortent par bandes, frissonnantes et sentant le bain. Tantôt, il apparaissait accroupi à la porte des mosquées, suant et soufflant pour quitter ses grosses bottes avant d'entrer dans le sanctuaire. Parfois, à la tombée de la nuit, quand il s'en revenait, navré de n'avoir rien découvert, pas plus au bain qu'à la mosquée, le Tarasconnais, en passant devant les maisons mauresques, entendait des chants monotones, des sons étouffés de guitare, des roulements de tambours de basque et des petits rires de femmes qui lui faisaient battre le cœur.
Elle est peut-être là, se disait-il. Alors, si la rue était déserte, il s'approchait d'une de ses maisons, levait le lourd marteau de la poterne basse et frappait timidement. Aussitôt, les chants, les rires cessaient. On n'entendait plus derrière la muraille que de petits chuchotements vagues, comme dans une volière endormie. « Tenons-nous bien, » pensait le héros, « il va m'arriver quelque chose. » Ce qui lui arrivait le plus souvent, c'était une grande potée d'eau froide sur la tête, ou bien des pots d'orange et de figues de Barbarie. Jamais rien de plus grave. Il y avait 2 grandes semaines que l'infortuné Tartarin cherchait sa dame algérienne, et très vraisemblablement il la chercherait encore, si la providence des amants n'était venue à son aide, sous les traits d'un gentilhomme monténégrin. Voici, en hiver, toutes les nuits de samedi, le grand théâtre d'Alger donne son bal masqué, ni plus ni moins que l'opéra. C'est l'éternel et insipide bal masqué de province. Peu de monde dans la salle, quelques épaves de bullier ou de casino, vierges folles suivant l'armée, chicards fanés, débardeurs en déroute, et 5 ou 6 petites blanchisseuses mahonnaises qui se lancent, mais gardent de leur temps de vertu un vague parfum d'ail et de sauce safranée. Le vrai coup d'œil n'est pas là. Il est au foyer, transformé pour la circonstance en salon de jeu. Une foule fiévreuse et bariolée s'y bouscule autour des longs tapis verts. Des turcos en permission misant les gros sous du pré, des maures marchands de la ville haute, des nègres, des maltais, des colons de l'intérieur qui ont fait 40 lieues pour venir hasarder sur un as l'argent d'une charrue ou d'un couple de bœufs. Tous frémissants, pâles, les dents serrées, avec ce regard singulier du joueur, trouble, en biseau, devenu louche à force de fixer toujours la même carte. Plus loin, ce sont des tribus de juifs algériens jouant en famille. Les hommes ont le costume oriental, hideusement agrémenté de bas bleus et de casquettes de velours. Les femmes, bouffies et blafardes, se tiennent toutes raides dans leurs étroits plastrons d'or. Groupées autour des tables, toute la tribu piaille, se concerte, compte sur ses doigts et joue peu. De temps en temps seulement, après de longs conciliabules, un vieux patriarche à barbe de père éternel se détache et va risquer le douro familial. C'est alors, tant que la partie dure, un scintillement d'yeux hébraïques tourné vers la table, terribles yeux d'aimants noirs qui font frétiller les pièces d'or sur le tapis et finissent par les attirer tout doucement, comme par un fil. Puis des querelles, des batailles, des jurons de tous les pays, des cris fous dans toutes les langues, des couteaux qu'on dégaine, la garde qui monte, de l'argent qui manque. C'est au milieu de ces saturnales que le grand Tartarin était venu s'égarer un soir pour chercher l'oubli et la paix du cœur. Le héros s'en allait seul dans la foule, pensant à sa mauresque, quand parmi les cris, tout à coup, à une table de jeu, par-dessus le bruit de l'or, 2 voix irritées s'élevèrent. « Je vous dis qu'il me manque 20 francs, monsieur. »« Monsieur !»« Après, monsieur ?»« Apprenez à qui vous parlez, monsieur. »« Je ne demande pas mieux, monsieur. »« Je suis le prince Grégory du Monténégro, monsieur. » À ce nom, Tartarin, tout ému, fendit la foule et vint se placer au premier rang, joyeux et fier de retrouver son prince, ce prince monténégrin si poli dont il avait ébauché la connaissance à bord du paquebot. Malheureusement, ce titre d'altesse, qui avait tant ébloui le bon Tarasconnais, ne produisit pas la moindre impression sur l'officier de chasseur avec qui le prince avait son algarade. « Me voilà bien avancé !» fit le militaire en ricanant, puis se tournant vers la galerie. « Grégory du Monténégro, qui connaît ça ?»« Personne !» Tartarin, indigné, fit un pas en avant. « Pardon, je connais le prince » dit-il d'une voix très ferme et de son plus bel accent tarasconnais. L'officier de chasseur le regarda un moment bien en face, puis levant les épaules, « Allons, c'est bon, partagez-vous les 20 francs qui manquent et qu'il n'en soit plus question. » Là-dessus, il tourna le dos et se perdit dans la foule. Le fougueux Tartarin voulait s'élancer derrière lui, mais le prince l'en empêcha. « Laissez, j'en fais mon affaire. » Et, prenant le tarasconnais par le bras, il l'entraîna dehors rapidement. Dès qu'ils furent sur la place, le prince Grégory du Monténégro se découvrit, tendit la main à notre héros et, se rappelant vaguement son nom, commença d'une voix vibrante. « Monsieur Barbarin !»« Tartarin !» souffla l'autre timidement. «
Tartarin, Barbarin, n'importe. Entre nous, maintenant, c'est à la vie, à la mort. » Et le noble Monténégrin lui secoua la main avec une farouche énergie. « Vous pensez si le Tarasconnais était fier ?»« Prince, prince » répétait-il avec ivresse. Un quart d'heure après, ces deux messieurs étaient installés au restaurant des Platanes, agréable maison de nuit dont les terrasses plongent sur la mer, et là, devant une forte salade russe arrosée d'un joli vin de Crécia, on renoua connaissance. Vous ne pouvez rien imaginer de plus séduisant que ce prince monténégrin. Mince, fin, les cheveux crépus, frisés au petit fer, rasés à la pierre ponce, constellés d'ordres bizarres, il avait l'œil futé, le geste câlin et un accent vaguement italien qui lui donnait un faux air de Mazarin sans moustache. Préféré d'ailleurs sur les langues latines, et citant à tout propos Tacite, Horace et les commentaires. De vieille race héréditaire, ses frères l'avaient, paraît-il, exilé dès l'âge de 10 ans, à cause de ses opinions libérales. Et depuis, il courait le monde pour son instruction et son plaisir, en altesse philosophe. Coïncidence singulière, le prince avait passé 3 ans à Tarascon. Et comme Tartarin s'étonnait de ne l'avoir jamais rencontré au cercle ou sur l'esplanade, « Je sortais peu, » fit l'altesse d'un ton évasif. Et le Tarasconnais, par discrétion, n'osa pas en demander davantage. Toutes ces grandes existences ont des côtés si mystérieux. En fin de compte, un très bon prince, ce seigneur Grégory. Tout en sirotant le vin rosé de Crécia, il écoutait patiemment Tartarin lui parler de sa mauresque, et même il se fit fort, connaissant toutes ces dames, de la retrouver promptement. On but sec et longtemps. On trinqua aux dames d'Alger, au Monténégro libre. Dehors, sous la terrasse, la mer roulait et les vagues, dans l'ombre, battaient la rive avec un bruit de draps mouillés qu'on secoue. L'air était chaud, le ciel plein d'étoiles. Ce fut Tartarin qui paya la note. Parlez-moi des princes monténégrins pour lever lestement la caille. Le lendemain de cette soirée aux Platanes, dès le petit jour, le prince Grégory était dans la chambre du Tarasconnais. « Vite, vite, habillez-vous, votre mauresque est retrouvée. Elle s'appelle Bahia. 20 ans, jolie comme un cœur, et déjà veuve. »« Veuve? Quelle chance !» fit joyeusement le brave Tartarin, qui se méfiait des maris d'Orient. « Oui, mais très surveillée par son frère. Ah, diantre! Un mort farouche qui vend des pipes au bazar d'Orléans. » Ici, un silence. « Bon, reprit le prince, vous n'êtes pas homme à vous effrayer pour si peu. Et puis, on en viendra peut-être à bout de ce forban en lui achetant quelques pipes. Allons, vite, habillez-vous, heureux coquin. » Pâle, ému, le cœur plein d'amour, le Tarasconnais sauta de son lit et, boutonnant à la hâte son vaste caleçon de flanelle, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»« Écrire à la dame, tout simplement, et lui demander un rendez-vous. » « Elle sait donc le français ?» fit d'un air désappointé le naïf Tartarin, qui rêvait d'Orient sans mélange. « Elle n'en sait pas un mot, » répondit le prince imperturbablement. « Mais vous allez me dicter la lettre et je la traduirai à mesure. »« Oh, prince, que de bonté !» Et le Tarasconnais se mit à marcher à grands pas dans la chambre, silencieux et se recueillant. « Vous pensez qu'on n'écrit pas à une mauresque d'Alger comme à une grisette de Beaucaire ?» Fort heureusement que notre héros avait, par-devers lui, ces nombreuses lectures qui lui permirent, en amalgamant la rhétorique apache des Indiens de Gustave Aimard, avec le voyage en Orient de Lamartine et quelques lointaines réminiscences du Cantique des Cantiques, de composer la lettre la plus orientale qui se pût voir. Cela commençait par « Comme l'autruche dans les sables » et finissait par « Dis-moi le nom de ton père et je te dirai le nom de cette fleur. » À cet envoi, le romanesque Tartarin aurait bien voulu joindre un bouquet de fleurs emblématiques, à la mode orientale. Mais le prince Grégory pensa qu'il valait mieux acheter quelques pipes chez le frère, ce qui ne manquerait pas d'adoucir l'humeur sauvage du monsieur, et ferait certainement très plaisir à la dame, qui fumait beaucoup. « Allons vite acheter des pipes, » fit Tartarin plein d'ardeur. « Non, non, laissez-moi y aller seul, je les aurai à meilleur compte. » « Comment, vous voulez ? Oh, prince, prince !» Et le brave homme, tout confus, tendit sa bourse à l'obligeant monténégrin, en lui recommandant de ne rien négliger pour que la dame fût contente. Malheureusement, l'affaire, quoique bien lancée, ne marcha pas aussi vite qu'on aurait pu l'espérer. Très touchée, paraît-il, de l'éloquence de Tartarin, et du reste aux trois quarts séduite par avance, la mauresque n'aurait pas mieux demandé que de le recevoir. Mais le frère avait des scrupules, et pour les endormir, il fallut acheter des douzaines, des grosses, des cargaisons de pipes. Qu'est-ce que diable Baïa peut faire de toutes ces pipes ? Se demandait parfois le pauvre Tartarin. Mais il paya quand même et sans lésiner. Enfin, après avoir acheté des montagnes de pipes et répandu des flots de poésie orientale, on obtint un rendez-vous. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quel battement de cœur le Tarasconnais s'y prépara, avec quel soin ému il tailla, lustra, parfuma sa rude barbe de chasseur de casquettes, sans oublier, car il faut tout prévoir, de glisser dans sa poche un casse-tête à pointe et deux ou trois revolvers. Le prince, toujours obligeant, vint à ce premier rendez-vous en qualité d'interprète. La dame habitait dans le haut de la ville. Devant sa porte, un jeune mort de 13 à 14 ans fumait des cigarettes. C'était le fameux Ali, le frère en question. En voyant arriver les deux visiteurs, il frappa deux coups à la poterne et se retira discrètement. La porte s'ouvrit. Une négresse parut qui, sans dire un seul mot, conduisit ces messieurs à travers l'étroite cour intérieure dans une petite chambre fraîche où la dame attendait, accoudée sur un lit bas. Au premier abord, elle parut au Tarasconnais plus petite et plus forte que la mauresque de l'omnibus. Au fait, était-ce bien la même ? Mais ce soupçon ne fit que traverser le cerveau de Tartarin comme un éclair. La dame était si jolie ainsi avec ses pieds nus, ses doigts grassouillés chargés de bagues, roses, fines, et sous son corselet de drap doré, sous les ramages de sa robe à fleurs, laissant deviner une aimable personne un peu boulotte, friande à point et ronde de partout. Le tuyau d'ambre d'un narguilé fumait à ses lèvres et l'enveloppait toute d'une gloire de fumée blonde. En entrant, le Tarasconnais posa une main sur son cœur et s'inclina le plus mauresquement possible en roulant de gros yeux passionnés. Baïa le regarda un moment sans rien dire. Puis, lâchant son tuyau d'ambre, se renversa en arrière, cacha sa tête dans ses mains, et l'on ne vit plus que son cou blanc qu'un fou rire faisait danser comme un sac rempli de perles. Si vous entriez un soir à la veillée chez les cafetiers algériens de la ville haute, vous entendriez encore aujourd'hui les morts causer entre eux avec des clignements d'yeux et de petits rires d'un certain Sidi Tartri Ben Tartri, européen aimable et riche, qui voici quelques années déjà vivait dans les hauts quartiers avec une petite dame du cru appelée Baïa. Le Sidi Tartri en question, qui a laissé de si gais souvenirs autour de la Casbah, n'est autre, on le devine, que notre Tartarin. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a comme cela dans la vie des saints et des héros des heures d'aveuglement, de troubles, de défaillance. L'illustre Tarasconnais n'en fut pas plus exempt qu'un autre, et c'est pourquoi, 2 mois durant, oublieux des lions et de la gloire, il se grisa d'amour oriental et s'endormit, comme Hannibal à Capoue, dans les délices d'Alger la Blanche. Le brave homme avait loué au cœur de la ville arabe une jolie maisonnette indigène avec cour intérieure, bananiers, galeries fraîches et fontaines. Il vivait là, loin de tout bruit, en compagnie de sa mauresque, mort lui-même de la tête aux pieds, soufflant tout le jour dans son narguilé et mangeant des confitures au musc. Étendu sur un divan en face de lui, Baïa, la guitare au poing, nasillait des airs monotones, ou bien, pour distraire son seigneur, elle mimait la danse du ventre en tenant à la main un petit miroir dans lequel elle mirait ses dents blanches et se faisait des mines. Comme la dame ne savait pas un mot de français ni Tartarin un mot d'arabe, la conversation languissait quelquefois, et le bavard Tarasconnais avait tout le temps de faire pénitence pour les intempérances de langage dont il s'était rendu coupable à la pharmacie Bézuquet ou chez l'armurier Costecal. Mais cette pénitence même ne manquait pas de charme, et c'était comme un spleen voluptueux qu'il éprouvait à rester là tout le jour sans parler, en écoutant le glouglou du narguilé, le frôlement de la guitare et le bruit léger de la fontaine dans les mosaïques de la cour. Le narguilé, le bain, l'amour remplissaient toute sa vie. On sortait peu. Quelquefois, Sidi Tartri, sa dame en croupe, s'en allait sur une brave mule manger des grenades à un petit jardin qu'il avait acheté aux environs. Mais jamais, au grand jamais, il ne descendait dans la ville européenne, avec ses zouaves en ribote, ses alcazars bourrés d'officiers et son éternel bruit de sabre traînant sous les arcades. Cet Alger-là lui semblait insupportable et laide comme un corps de garde d'Occident. En somme, le Tarasconnais était très heureux. Tartarin Sancho, surtout, très friand de pâtisserie turque, se déclarait on ne peut plus satisfait de sa nouvelle existence. Tartarin Quichotte, lui, avait bien, par-ci par-là, quelques remords, en pensant à Tarascon et aux peaux promises. Mais cela ne durait pas. Et pour chasser ces tristes idées, il suffisait d'un regard de Baïa ou d'une cuillerée de ces diaboliques confitures odorantes et troublantes comme les breuvages de Circé. Le soir, le prince Grégory venait parler un peu du Monténégro libre. D'une complaisance infatigable, cet aimable seigneur remplissait dans la maison les fonctions d'interprète, au besoin même celles d'intendant, et tout cela pour rien, pour le plaisir. À part lui, Tartarin ne recevait que des teurs. Tous ces forbans à tête farouche, qui naguère lui faisaient tant de peur du fond de leurs noires échoppes, se trouvèrent être, une fois qu'il les connut, de bons commerçants inoffensifs, des brodeurs, des marchands d'épices, des tourneurs de tuyaux de pipe, tous gens bien élevés, humbles, finaux, discrets et de première force à la bouillotte. 4 ou 5 fois par semaine, ces messieurs venaient passer la soirée chez Sidi Tartri, lui gagnaient son argent, lui mangeaient ses confitures et sur le coup de 10 heures, se retiraient discrètement en remerciant le prophète. Derrière eux, Sidi Tartri et sa fidèle épouse finissaient la soirée sur la terrasse, une grande terrasse blanche qui faisait toit à la maison et dominait la ville. Tout autour, un millier d'autres terrasses, blanches aussi, tranquilles sous le clair de lune, descendaient en s'échelonnant jusqu'à la mer. Des fredons de guitare arrivaient, portés par la brise. Soudain, comme un bouquet d'étoiles, une mélodie claire s'égrenait doucement dans le ciel, et sur le minaret de la mosquée voisine, un beau muezzin apparaissait, découpant son ombre blanche dans le bleu profond de la nuit, et chantant la gloire d'Allah avec une voix merveilleuse qui remplissait l'horizon. Aussitôt, Baïa lâchait sa guitare, et ses grands yeux tournés vers le muezzin semblaient boire la prière avec délice. Tant que le chant durait, elle restait là, frissonnante, extasiée, comme une sainte Thérèse d'Orient. Tartarin, tout ému, la regardait prier et pensait en lui-même que c'était une forte et belle religion, celle qui pouvait causer des ivresses de foi pareilles. Tarascon, voile-toi la face, ton Tartarin songeait à se faire renégat. Par une belle après-midi de ciel bleu et de brise tiède, Sidi Tartri, à califourchon sur sa mule, revenait tout seul de son petit clos. Les jambes écartées par de larges coussins en sparterie que gonflaient les cédras et les pastèques, bercé au bruit de ses grands étriers et suivant de tout son corps le balin-ballant de la bête, le brave homme s'en allait ainsi dans un paysage adorable, les deux mains croisées sur son ventre, aux trois quarts assoupis par le bien-être et la chaleur. Tout à coup, en entrant dans la ville, un appel formidable le réveilla. « Eh, monstre de sort, on dirait monsieur Tartarin !» À ce nom de Tartarin, à cet accent joyeusement méridional, le Tarasconnais leva la tête et aperçut à 2 pas de lui la brave figure tannée de maître Barbassou, le capitaine du Zouave, qui prenait l'absinthe en fumant sa pipe sur la porte d'un petit café. « Eh, adieu, Barbassou !» fit Tartarin en arrêtant sa mule. Au lieu de lui répondre, Barbassou le regarda un moment avec de grands yeux. Puis le voilà parti à rire tellement que Sidi Tartri en resta tout interloqué, le derrière sur ses pastèques. « Qu'est turban, mon pauvre monsieur Tartarin ! C'est donc vrai ce qu'on dit, que vous vous êtes fait tort ? Et la petite Baïa, est-ce qu'elle chante toujours Marco la Belle ?»« Marco la Belle ? » fit Tartarin indigné. « Apprenez, capitaine, que la personne dont vous parlez est une honnête fille morte et qu'elle ne sait pas un mot de français. »« Baïa, pas un mot de français ? D'où sortez-vous donc ? » et le brave capitaine se remit à rire plus fort. Puis, voyant la mine du pauvre Sidi Tartri qui s'allongeait, il se ravisa. « Au fait, ce n'est peut-être pas la même. Mettons que j'ai confondu. Seulement, voyez-vous, monsieur Tartarin, vous feriez tout de même bien de vous méfier des mauresques algériennes et des princes du Monténégro. » Tartarin se dressa sur ses étriers en faisant la moue. « Le prince est mon ami, capitaine. »« Bon, bon, ne nous fâchons pas. Vous ne prenez pas une absinthe ? Non ? Rien à faire dire au pays ? Non plus ? Eh bien, alors, bon voyage. À propos, collègue, j'ai là du bon tabac de France, si vous en vouliez emporter quelques pipes. Prenez donc, ça vous fera du bien. Ce sont vos sacrés tabacs d'Orient qui vous barbouillent les idées. » Là-dessus, le capitaine retourna à son absinthe et Tartarin, tout pensif, reprit au petit trot le chemin de sa maisonnette. Bien que sa grande âme se refusât à rien en croire, les insinuations de Barbassou l'avaient attristé. Puis ses jurons du cru, l'accent de là-bas, tout cela éveillait en lui de vagues remords. Au logis, il ne trouva personne. Baïa était au bain. La négresse lui parut laide, la maison triste. En proie à une indéfinissable mélancolie, il vint s'asseoir près de la fontaine et bourra une pipe avec le tabac de Barbassou. Ce tabac était enveloppé dans un fragment du sémaphore. En le déployant, le nom de sa ville natale lui sauta aux yeux. On nous écrit de Tarascon. La ville est dans les transes. Tartarin, le tueur de lions, parti pour chasser les grands félins en Afrique, n'a pas donné de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Qu'est devenu notre héroïque compatriote? On ose à peine se le demander quand on a connu comme nous cette tête ardente, cette audace, ce besoin d'aventure. A-t-il été, comme tant d'autres, englouti dans le sable? Ou bien est-il tombé sous la dent meurtrière d'un de ces monstres de l'Atlas dont il avait promis les peaux à la municipalité? Terrible incertitude. Pourtant, des marchands nègres venus à la foire de Beaucaire prétendent avoir rencontré en plein désert un Européen dont le signalement se rapportait au sien et qui se dirigeait vers Tombouctou. Dieu nous garde notre Tartarin. Quand il lut cela, le Tarasconnais rougit, pâlit, frissonna. Tout Tarascon lui apparut. Le cercle, les chasseurs de casquettes, le fauteuil vert chez Costecalde, et, planant au-dessus comme un aigle éployé, la formidable moustache du brave commandant Bravida. Alors, de se voir là, comme il était, lâchement accroupi sur sa natte, tandis qu'on le croyait en train de massacrer des fauves, Tartarin de Tarascon eut honte de lui-même et pleura. Tout à coup, le héros bondit. « Au lion, au lion !» Et, s'élançant dans le réduit poudreux où dormaient la tente-abri, la pharmacie, les conserves, la caisse d'armes, il les traîna au milieu de la cour. Tartarin Sancho venait d'expirer. Il ne restait plus que Tartarin Quichotte. Le temps d'inspecter son matériel, de s'armer, de se harnacher, de rechausser ses grandes bottes, d'écrire deux mots au prince pour lui confier Baïa, le temps de glisser sous l'enveloppe quelques billets bleus mouillés de larmes, et l'intrépide Tarasconnais roulait en diligence sur la route de Blida, laissant à la maison sa négresse stupéfaite devant le narguilé, le turban, les babouches, toute la défroque musulmane de Sidi Tartri qui traînait piteusement sous les petits trèfles blancs de la galerie.